Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, connaissez-vous le point commun entre nos ampoules basse consommation, nos écrans plats, les batteries des voitures hybrides ou encore nos billets de banque? Eh bien, tous utilisent de précieux minerais aux propriétés électromagnétiques, des minerais que nous appelons terres rares. Et depuis l'explosion des hautes technologies avec les smartphones, nos ordinateurs toujours plus compacts et la fin programmée de nos ampoules classiques, pour ne donner que ces exemples, la demande sur le marché de ces terres rares explose. Au cours de cette émission éclairage, je vous propose de faire le point sur ces 17 métaux qui sont devenus un véritable or noir. Quelles sont leurs propriétés? Où les trouve-t-on? Comment les extraire? Sont-ils aussi rares que leur nom l'indique? Et peut-on les recycler? Autant de questions que nous allons pouvoir aborder en compagnie de notre invité, Paul Caro. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes correspondant à l'Académie des sciences, membre de l'Académie des technologies, directeur de recherche honoraire au CNRS et spécialiste des éléments des terres rares. Vous avez été auditionné en 2011 à l'Assemblée nationale sur les enjeux stratégiques liés aux terres rares. Nous en reparlerons bien sûr au cours de cette émission. Enjeux stratégiques puisque, faut-il le rappeler, la Chine assure actuellement à elle seule plus de 95% de l'extraction de ces terres rares sur la planète et que des gisements potentiels sont estimés dans les eaux internationales, également en Antarctique, zone géographique pour l'instant épargnée mais régulièrement menacée. Paul Caro, une première question assez simple. Pourquoi parle-t-on de terres rares puisqu'il ne s'agit pas de terres et il semble qu'elles ne soient pas si rares que ça?
Non, mais l'appellation est historique. La découverte des terres rares remonte à la fin du XVIIe siècle, surtout dans les pays du Nord, d'ailleurs en Suède et autres pays nordiques. Et il se trouve que l'appellation terre est liée au fait que les oxydes étaient réfractaires, c'est-à-dire tenaient au feu, comme le magnésie, pour donner un exemple courant. Et donc, cette appellation de terre est restée à ces matériaux qui tenaient bien au feu. Et rare, eh bien, l'appellation est un peu plus curieuse. Rare parce que, en fait, il y en a partout dans le monde, sauf en Europe. Donc, pour les chercheurs européens, c'était des terres rares. Et donc, là, l'appellation est restée. Et évidemment, on savait bien au début qu'il y avait un paquet d'éléments. On ne savait pas trop ce que c'était qu'un élément à l'époque, mais enfin, un paquet d'éléments très semblables. Et qui étaient rassemblés dans ces terres dites rares. Alors, il faut anticiper un petit peu pour expliquer les choses. Il faut dire qu'il y a 17 terres rares officiellement labellisées, dont 3 sont le scandium, l'yttrium et le lanthane, et puis le reste sont des lanthanides. Donc, il faut vous dire que on sait bien maintenant pourquoi les terres rares sont non pas rares, mais ce qu'elles sont, c'est-à-dire des éléments aux propriétés très variées. Et à l'époque, on n'était pas très sûr, parce qu'on ne savait pas trop combien il y avait d'éléments, hein, parce que la classification périodique n'était pas classée. Et puis ensuite, pour les terres rares, ça n'allait pas du tout, parce qu'ils étaient finalement tous dans la même case, donc ça posait un problème. Bon, alors pour anticiper un peu, on peut dire que la grande curiosité des terres rares, c'est leur structure électronique. Vous savez qu'on passe d'un élément à un autre en rajoutant un électron. En l'occurrence, puis alors, les électrons, on leur donne évidemment des noms sous forme d'étiquettes, quoi. Et là, il s'agit, avec les lanthanides, d'électrons 4F. Donc on rajoute un électron 4F, il y en a 14, et donc ça donne les éléments des lanthanides. Et qu'est-ce qu'il y a comme propriété spécifique de ces électrons 4F? C'est qu'ils sont enfouis très profondément au cœur de l'atome. Ils s'ajoutent à chaque fois, mais profondément au cœur de l'atome. Le résultat, et là c'est déconcertant, c'est que les propriétés chimiques sont les mêmes. Et donc on est en présence d'atomes qui ont absolument les mêmes propriétés chimiques. Alors vous voyez, 17 éléments avec les mêmes propriétés chimiques, ça a posé évidemment aux premiers chimistes des problèmes considérables. Ils n'arrivaient pas à les séparer, évidemment, puisque il n'y a que la chimie qui peut les séparer, et quand on a les mêmes propriétés, on ne sépare pas. Alors, ça a posé longtemps un problème, la séparation des terres rares. Il y avait des techniques par cristallisation fractionnée, pour vous dire que les chercheurs français ont beaucoup travaillé sur les terres rares. Donc il y a eu tout au début, fin du 19e et au début du 20e, beaucoup de chercheurs qui se sont illustrés, comme Georges Urbain, comme Lecoq de Bois-Baudran, qui ont séparé certaines terres rares avec des méthodes de jacobins, de moines, hein. C'est-à-dire qu'on transvasait tous les matins une liqueur d'une capsule dans une autre, pourrais-je payer, faire monter un peu la teneur dans l'un des éléments. Alors c'était une époque héroïque. Il faut dire que si on en était resté là, les terres rares ne seraient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Mais vous savez sûrement qu'il existait un certain Manhattan Project aux États-Unis. Et là, les Américains du côté de Chicago, dans l'Iowa, ont mis au point des techniques de séparation par échange d'ions, qui se sont révélées pénibles aussi, mais très performantes, et qui ont permis donc d'obtenir des terres rares à l'état pur, mais tout ça finalement à l'étage industriel vers le milieu des années 50.
Donc l'industrie militaire a permis en fait d'utiliser et d'exploiter ces terres rares.
Absolument, oui, oui. Et je dois dire que les terres rares l'ont bien rendu à l'industrie militaire. Mais voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des terres rares en quantité notable. Et d'ailleurs, le premier travail que j'ai fait, je me souviens, c'est de séparer le scandium sur des colonnes échangeuses d'ions dans le laboratoire de mon patron qui était le professeur Tron à l'époque et qui était lui-même un élève de Georges Urbain. Donc il y avait la tradition française.
Alors si vous voulez, je vous propose d'avancer sur justement tous ces enjeux liés aux terres rares. On a bien compris l'aspect historique hein, de l'exploitation de ces terres rares, en tout cas la découverte et puis les premières utilisations. Aujourd'hui, je le disais en introduction, la Chine est le premier exploitant de terres rares, mais comme vous le disiez, les terres rares, il y en a un peu partout.
L'enthousiasme des Chinois pour les terres rares est ancien. Très ancien même, ils considéraient que c'était une matière première chinoise. Il y en a beaucoup en Chine, c'est vrai. Il y a beaucoup de minerais de terres rares en Chine, et donc ils pouvaient penser que c'était une source nationale importante. Ce que c'est, effectivement. Pour assurer leur suprématie dans ce domaine-là, ils ont fait à peu près n'importe quoi et tout. C'est-à-dire qu'ils ont exploité des gisements, pas toujours dans les bonnes règles de traitement. Il y a une ville en Chine qui s'appelle Baotou, qui est en Mongolie intérieure, et qui est probablement un des endroits les plus extraordinairement pollués de la planète.
Il y a un lac artificiel, c'est ça, où il y a donc
oui,
tous les métaux lourds qui se retrouvent.
Il y a un nuage permanent de poudre, de tas de choses qui circulent dans l'atmosphère.
Lié à l'exploitation, justement, de ces terres rares.
Bien pas seulement que les terres rares, ils exploitent du fer aussi. Lié en particulier à l'exploitation des terres rares, et ça rejette, il faut voir la nature du minerai. Les minerais de terres rares sont très variés. D'abord, il y a à peu près toute la chimie possible et représentée. Et dans ces minerais, il y a des produits qui sont pas très sympathiques. En particulier les minéraux fluorés, qui rejettent donc du fluor. L'un des plus célèbres minerais de terres rares, la basnésite, qui contient du fluor. Et donc ça pose un problème de rejet. Mais il y a aussi un autre problème, dont la France a bien fait les frais d'ailleurs. C'est que certains minerais de terres rares, beaucoup même, sinon tous presque, contiennent du thorium. Le thorium n'est pas une terre rare. C'est suit dans la liste des éléments. Mais ce thorium, qui n'a pas de propriété bien intéressante, a un inconvénient, c'est qu'il est légèrement radioactif. Donc c'est un résidu radioactif. Et la France avait, je dis bien avait, parce qu'elle a toujours, mais enfin, une importante usine de séparation des terres rares, qui était même la première du monde, à La Rochelle. Et cette usine avait un défaut, à un moment, elle importait du minerai d'Australie, qui contenait une grande quantité de thorium. Alors que faire du thorium, quand on a séparé des terres rares, on le jette. Alors, ils avaient trouvé astucieux, les responsables à l'époque, de le jeter dans la baie de La Rochelle. Ce qui n'était pas forcément le meilleur endroit du monde pour ça. Donc il y a eu une grande campagne écologique anti-usine des terres rares, Théron Poulenc à l'époque. Et donc ça a conduit simplement à la fermeture de l'usine. Et à la vente d'ailleurs de la technologie associée à la Chine. Donc la France, comme les États-Unis d'ailleurs, s'est débarrassée de sa technologie des terres rares pour les vendre à la Chine qui était acheteuse de ça parce qu'ils avaient besoin de séparer leurs propres terres rares. Donc l'Europe s'est un peu mordu le pied, si on peut dire, en cédant son savoir-faire finalement.
La France, également les États-Unis, aujourd'hui ont arrêté l'exploitation de terres rares, mais alors justement la Chine, comment fait-elle avec ce thorium ?
Elle le jette dans la cour.
Pourtant aujourd'hui, le ministre de l'Industrie chinois explique qu'il pense réduire de 10% l'exploitation des terres rares en Chine pour justement limiter les dégâts écologiques.
Il faut comprendre que c'est pas simple, hein, parce qu'il faut, comme c'est un minerai assez dur généralement, il faut le broyer, et ça fait de la poussière. Ensuite, il faut le dissoudre dans les acides, et il peut y avoir des rejets de composés indésirables, comme le fluor et autres. Et une fois qu'on a plus ou moins traité le minerai, le problème n'est pas résolu, parce qu'il faut en extraire les oxydes de terres rares. Et une fois qu'on a les oxydes, le problème commence, parce qu'il faut, à partir de ça, les séparer des terres rares. par des techniques d'échange d'ions ou d'échange par solvant, enfin tout ce qui est... Justement, les échanges par solvant avaient été mis au point à La Rochelle, c'était une bonne technologie, plus rapide que l'échange d'ions. Parce que le problème de la séparation est quand même le problème majeur. Les minerais contiennent toutes les terres rares, enfin plus ou moins, parce qu'il y en a qui sont plus du début de la série, d'autres plus à la fin, mais ils contiennent, sont toutes des mélanges, il n'y a pas de minerais de terres rares purs. Et donc il faut fatalement les séparer, l'étape de la séparation est indispensable.
Et pour les extraire, il faut utiliser des produits polluants.
Oui, il faut extraire les produits polluants, mais il faut aussi tenir compte du fait que la technologie des terres rares, pour que les applications puissent fonctionner, exige des produits très purs, des terres rares pures. Et là, ça demande des gros efforts de séparation pour obtenir la qualité essentielle, qui a été longtemps le problème de la Chine d'ailleurs. Ils n'arrivaient pas très bien à obtenir des terres rares de pureté suffisante pour faire des écrans de télévision, par exemple. Donc ça a été longtemps un problème. Et ça l'est toujours. Ça veut dire que la phase d'obtention des terres rares, premier stade de la transformation, hein, parce qu'après on peut faire quelque chose, mais il faut d'abord obtenir des terres rares pures, et généralement ce sont des oxydes, et ensuite il faut les appliquer, les transformer en métaux, enfin il y a toute une série d'étapes qui chaque fois sont difficiles. Bon, maintenant, il faut vous dire une chose. La curiosité électronique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de savoir que les électrons qui font les terres rares sont profondément enfouis dans le cœur de l'atome, conduit à des propriétés tout à fait extraordinaires. La première des propriétés est exploitée dans l'optique. C'est que ces électrons n'interfèrent pas avec l'extérieur, donc les phénomènes qui se passent dans l'atome sont à peu près ceux qu'on trouve dans les atomes libres, c'est-à-dire sans interférence de la chimie extérieure. Et ça a conduit à des dispositifs essentiellement importants pour les transitions optiques. C'est-à-dire, comme il y a une série de niveaux d'énergie, comme dans un atome libre, eh bien, l'atome peut sauter d'un niveau d'énergie à un autre et en revenir. Il saute, il absorbe du rayonnement quelconque, et puis il revient en émettant généralement des couleurs monochromatiques. Et ça, c'est évidemment la base de l'emploi des terres rares pour les lasers à l'état solide. Donc la première utilisation, ça a été la fluorescence. On demandait à une substance, une poudre par exemple, d'émettre une lumière rouge, par exemple, hein, ce qui est le cas de la télévision en couleur. Et puis, avec ça, on pouvait faire des choses. Il faut vous dire que l'exemple historique, c'est l'europium pour la télévision en couleur. L'europium qui émet, si vous voyez sur la télévision, c'est une couleur rouge. Et cet europium-là a été à des avantages électroniques, c'est-à-dire que ça sature pas, donc l'écran de télévision est bien meilleur, ça se voit tout de suite. Et donc le premier avantage de la séparation des terres rares mis au point après le projet Manhattan, ça a été de donner les matières premières pour la télévision
pour
couleur.
La télévision couleur.
Et à l'époque, la télévision couleur est apparue et il fallait beaucoup de terres rares, etc. Il y a eu d'autres applications un peu plus étranges, mais le Congrès américain a pas voulu en entendre parler. On avait envisagé de faire un avion à propulsion nucléaire, qui contenait beaucoup de terres rares, dans le détrium. Et alors quelqu'un a fait remarquer quand même qu'un avion à propulsion nucléaire, si ça s'écroulait sur un village de l'Iowa ou du Michigan, ça posait des problèmes. Donc le Congrès a bloqué la chose. Mais l'industrie avait commencé à séparer des grandes quantités de terres rares, et donc ils étaient disponibles pour la télévision. Bon, mais là, deuxième avantage de la luminescence est une chose, mais le fait que les radiations, certaines radiations, pas spécialement l'europium mais d'autres, puissent être utilisées pour faire des lasers à l'état solide, dans les cristaux, a créé une véritable révolution dans tous les domaines. En particulier, le néodyme et l'erbium sont largement utilisés comme émetteurs laser, et même comme émetteurs laser de puissance. Si bien que ça donnait lieu à toute une technologie qui est apparue avec des grosses applications militaires, bien entendu, parce que guide d'onde, etc. Et même, on pensait faire de la fusion nucléaire par laser. Et les États-Unis ont monté un Ignition Laboratory qui est en Californie, à Livermore, qui utilise des puissants faisceaux de laser au néodyme, qui les mettent dans l'infrarouge, et qui ciblent une petite bouteille minuscule de thérium-tritium en espérant y provoquer une explosion, une fusion nucléaire. Alors le projet marche pas très bien en ce moment, et semble-t-il le Congrès est en train de retirer l'argent. Mais enfin, ça a été un rêve longtemps caressé.
Alors, on a bien compris toutes les applications possibles et on en reparlera encore au cours de cette émission. Je voudrais juste revenir sur l'hégémonie de la Chine. Alors, on a bien compris que, pour l'instant, il ne se posait pas encore toutes ces questions écologiques. que les autres pays se sont posés, et alors ils ont simplement fermé les portes à cette exploitation pour pouvoir la faire exploiter par des pays moins regardants, si je puis dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de presque de guerre économique, puisque en mars 2012, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont porté plainte contre la Chine devant l'OMC, parce que pour eux, si la Chine diminuait son exploitation de terres rares, c'était aussi pour des questions économiques, c'est-à-dire faire monter la valeur des terres rares.
Oui, c'est ce qu'on dit aussi pour leur querelle avec le Japon, c'est-à-dire qu'ils profitent du fait que le Japon consomme énormément de terres rares et que la Chine est une source, et donc ça pose un problème. Mais il faut dire que c'est pas seulement d'avoir le minerai et même les terres rares séparées, il faut savoir faire le reste. Les luminophores ont longtemps été une spécialité de certaines industriels parce que il fallait les faire très purs pour que ça marche. Et si on savait pas les faire très purs, c'était pas la peine. Les lasers, c'est pareil. Faire des cristaux laser, c'est pas évident. Et donc ça aussi, il y a un savoir-faire derrière qui va bien au-delà de la matière première terre rare qu'on peut utiliser, même à l'état ultra pur. Puis il y a d'autres applications qui sont apparues où le critère de pureté est encore plus drastique. Il s'agit des aimants permanents. Il faut vous dire qu'on a découvert, vers les années 50 toujours, que les terres rares étaient des éléments magnétiques, comme le groupe du fer. C'est-à-dire mon patron, Félix Trombe, qui vers 1935 a découvert que le gadolinium, une des terres rares, était ferromagnétique. Avec un point de Curie vers 19 degrés, ce qui n'a pas facilité tellement les études, parce qu'un jour je te vois, le lendemain, je te vois plus, puisque la température a monté. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des aimants très puissants.
Donc, utilisés pour les batteries, les éoliennes?
Utilisés pour des tas de choses, et en particulier pour la technologie la plus courante, et il y en a sûrement dans cette pièce, pour les microphones en particulier, des choses comme ça. Donc, l'aimant à base de terres rares est très très répandu maintenant. Il y en a partout, tous les petits appareils qui ont besoin d'aimants, ce serait pour fermer un coffre de voiture ou des choses comme ça, peuvent contenir des terres rares. Donc c'est un marché qui s'est énormément répandu, sauf que là, il faut savoir faire des alliages magnétiques. Et ça aussi, c'est pas évident. Ce sont souvent des choses qui sont frittées à chaud, etc. Et puis, donc pas facile à faire. Et puis on en a découvert de plus en plus. Donc il y a beaucoup de combinaisons de terres rares qui sont utilisées pour faire ces aimants permanents. Le néodyme, toujours, revient lui aussi sur le devant de la scène. Et c'est un composant important. Le dysprosium aussi, d'ailleurs. Et donc, beaucoup d'aimants sont devenus des enjeux de technologie d'aujourd'hui, importants. Pas seulement pour la technologie militaire, pour des tas de technologies ordinaires, comme le véhicule automobile. Le véhicule automobile contient beaucoup de terres rares sur plusieurs points, depuis les catalyseurs qui servent à diminuer la pollution, jusqu'à des composites pour les verres, etc. Et puis, des tas de petits aimants qui servent à régler les petites choses. Et surtout, comme on est, le grand avantage de ces choses-là, c'est que ça a contribué à la miniaturisation des choses. C'est-à-dire, comme les aimants sont sous un faible volume, très puissant, ça compte, on peut faire des choses beaucoup plus petites. Et donc ça, c'est une tendance générale de la technologie dans les 20 ou 30 dernières années, ou même avant, miniaturiser le plus possible en conservant la puissance, etc. Et donc, à cause de ça, les terres rares ont pris une importance qu'elles n'auraient pas eu forcément sans ça, sans ce fait qu'elles avaient beaucoup de puissance dans un petit volume.
Donc on trouve des terres rares un peu partout dans nos produits de tous les jours. Et puis il y a malheureusement un paradoxe, on retrouve beaucoup de terres rares dans des outils qui permettent d'exploiter les énergies vertes, renouvelables. Donc les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, également les éoliennes qui utilisent
les panneaux solaires, pas tellement. Il n'y a pas tellement de terres rares dans les panneaux solaires qui sont essentiellement composés de silicium et autres.
Il semble que la dernière technologie mise au point utilise une partie de terres rares.
Ah oui, c'est possible.
Mais ce n'est pas en la majorité. Les éoliennes, en revanche, utilisent beaucoup de terres rares pour les aimants. Et puis également les batteries hybrides.
Les éoliennes utilisent des terres rares parce qu'ils ont des moteurs qui fonctionnent mieux avec des aimants ou terres rares, des moteurs synchrones. Et donc, c'est devenu un marché très très important pour les éoliennes. Parce que il y a je ne sais plus combien de kilos de terres rares par mégawatt de puissance éolienne, mais c'est considérable. 40
un ordre d'idée peut-être 40 à 50
Oui, je pense. Ça dépend des terres encore. Là,
40 à 50 kilos
Kilos, oui.
Par gigawatt. Je disais paradoxe, puisque pour utiliser des énergies vertes, il faut extraire ces terres rares avec malheureusement des produits très polluants. Donc malheureusement, ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre.
Ça dépend encore si on prend les précautions adéquates. Si on veut faire de la séparation de l'extraction propre, c'est parfaitement possible.
C'est possible.
Ça coûte plus cher, évidemment.
Alors, comment expliquez-vous que des pays comme les États-Unis, par exemple, aient arrêté l'exploitation de terres rares si on peut poursuivre une exploitation propre?
Oui, mais c'est parce qu'elle coûte cher, simplement. Si on veut faire une exploitation propre, dans le cas des terres rares des États-Unis, il fallait éliminer le fluor, qui est quand même pas si simple. Et donc, à ce moment-là, ça coûte plus cher. Et puis, on obtient quoi? On obtient un mélange de terres rares dont la valeur est faible, finalement. Si on obtenait des terres rares brutes séparées, évidemment, ce serait différent. Mais on a toujours un mélange. Le travail commence à partir du moment où on a le mélange.
Je parlais d'autres pays également, donc les États-Unis, on vient d'en parler, également donc l'Australie, l'Afrique du Sud, qui en 1950 exploitait aussi des terres rares, le Canada et le Groenland, et puis également l'Inde et le Brésil, mais j'imagine qu'à chaque fois les propriétés sont un peu différentes et les cas de figure sont différents.
Non, en gros, il y a deux types de minerais de terres rares, comme c'est une série des terres rares, donc les lanthanides surtout on parle. Alors au début de la série, on a ce qu'on appelle les composés riches en lanthane ou en cérium, qui sont au début de la série, puis à la fin, il y a des terres rares plus lourdes. Et il y a des minerais qui sont enrichis en terres rares sériques du début de la série, d'autres enrichis en terres rares lourdes. Alors comme les terres rares lourdes se trouvent avoir beaucoup d'applications intéressantes, on a tendance à favoriser un peu l'exploitation des minerais de terres rares lourdes. C'est l'avantage du Brésil, par exemple, hein, qui a beaucoup de minerais de terres rares lourdes. Bon, mais encore une fois, le problème n'est pas tellement là, parce qu'on peut trouver le gisement, quel qu'il soit de la nature chimique. Le problème, c'est une fois qu'on l'a trouvé, il faut en extraire les terres rares comme un groupe, et ensuite séparer ce groupe. Donc c'est toute une chaîne technologique compliquée qu'il faut mettre en place.
Puis parallèlement, on développe les filières de recyclage. Il y a plusieurs usines dans le monde qui commencent à recycler des produits qui utilisent des terres rares. Il y en a une en France, à La Rochelle, là où il y avait jadis donc l'exploitation par Ron Poulenc, donc de terres rares. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Cette usine a ouvert en septembre 2012, il y a donc assez peu de temps.
Je ne connais pas. Ben, ce n'est pas une idée absurde de recycler terres. D'ici, vous prenez une voiture aujourd'hui, il y a énormément de terres rares dedans. Plusieurs terres rares en plusieurs points. Donc ça vaut sûrement le coup d'être recyclé. Bon, il y a des tas de petits objets comme des lampes, etc., qui contiennent aussi des terres rares. Qu'on peut récupérer, bien sûr.
C'est ce qui est exploité, en tout cas, par cette usine.
Oui, oui. Seulement, le problème, c'est de savoir combien il y a de terres rares dans le mélange. Parce qu'il, pour vrai, il faut les séparer après. Mais eux, La Rochelle, ils connaissent bien la technologie, donc ça, c'est pas un problème.
Pensez-vous qu'on pourra, à terme, développer peut-être des substituts de synthèse pour les terres rares?
Non. Je veux dire, les propriétés sont spécifiques. L'électron F, on revient à la chose. Donc, c'est ce qui fait leur originalité. Et c'est les seuls éléments qui essaient.
Et d'utiliser peut-être des technologies moins gourmandes en terres rares, avec des aimants qui n'utilisent pas de terres rares. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, par exemple, utiliser des voitures hybrides qui n'utiliseraient pas d'aimants, par exemple?
Non, je crois justement ce qui fait l'apport des aimants à ces technologies hybrides, c'est justement les terres rares. Donc c'est une part importante des technologies hybrides.
Toyota, par exemple, pour citer la marque, est en train de travailler sur cette question-là.
Oui, bien sûr, tous y travaillent là-dessus. Et ça tombe sous le sens, comme je dis, la miniaturisation permet effectivement de comprimer les coûts, comprimer les volumes. C'est extrêmement important pour l'industrie, l'automobile en particulier, pour d'autres industries qui ont besoin de petits objets, quoi.
Donc pour terminer cette émission, Paul Carreau, est-ce que vous pensez qu'il est possible, vous avez déjà répondu à cette question en partie, mais est-ce que vous pensez qu'il est possible d'utiliser cette terre rare par des procédés peu polluants, pour ne pas dire pas polluants du tout?
Bon, il faut vous dire une chose, c'est-à-dire que les terres rares en elles-mêmes ne sont pas polluantes ni toxiques pour la santé. Finalement, il n'y a pas de gros problèmes de toxicité. Il peut y avoir quelques petits problèmes ici ou là, mais on ne peut pas dire qu'il y ait quelque part là-dedans quelque chose qui soit vraiment un poison. Bon, maintenant, il est clair que le problème environnemental vient de la technique d'exploitation du minerai. Alors là, ça dépend du minerai d'abord, parce que chaque minerai, chaque problème. Et ensuite, je vous dis, il faut mettre l'argent qu'il faut pour faire ça proprement. La question n'est pas même de savoir comment il faut faire, on le sait très bien. La question, c'est qu'il faut aligner l'argent qu'il faut pour ça.
Donc pensez-vous qu'il faille, je ne sais pas, une obligation morale des pays pour faire une exploitation plus propre de ces terres rares?
Mais il faudrait, oui. Il faudrait,
mais vous pensez que c'est réaliste?
Ben, c'est faisable, techniquement c'est faisable. Enfin, quand on voit la manière dont on a exploité l'uranium, on peut se poser des questions, évidemment. L'uranium, c'est quand même plus facile que les terres rares. Il n'empêche que dans le Limousin, il reste des dépôts sauvages d'uranium qui n'ont pas été très bien maîtrisés. L'environnement, c'est comme tout. Hein. Il faut se donner une priorité et respecter.
Et voir si l'aspect économique prend le dessus ou pas sur ces
questions. Oui, évidemment, ça fait monter les coûts. Alors, il est possible qu'au bout, fabrique un produit qui n'est pas vendable parce qu'il est trop cher. Donc, ça pose des tas de problèmes dans la chaîne économique, etc.
Dernière question, Paul Carreau. Alors, quel est votre regard, justement, sur l'exploitation de ces terres rares?
Vous savez, on a exploité les terres rares pendant longtemps sans trop de problèmes. Mais c'était des petites quantités, bien sûr. Hein. C'est des petites quantités. Et puis, bon, finalement, on est devenu plus exigeant. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des minerais un peu plus sophistiqués, avec les problèmes que ça pouvait poser. Et puis, beaucoup d'applications sont devenues non seulement haut de gamme, mais stratégiques. Alors là, ça change la question complètement. Parce que quand on a une application militaire qui donne un avantage considérable, évidemment, le prix n'a plus d'importance. Le prix n'a plus d'importance. Et donc, c'est le cas avec les terres rares. C'est clair que les lasers de guidage et les choses comme ça, leur prix est tellement élevé, leur fabrication tellement complexe que le prix de matière première n'a aucune importance.
D'où l'aspect stratégique de l'exploitation de ces terres rares.
Oui, les terres rares sont maintenant un matériau devenu stratégique pour beaucoup d'applications carrément militaires, quoi, bien sûr. Et donc c'est devenu un enjeu de domination entre les États, quoi. Je crois que la Chine aussi a un œil là-dessus parce que ils feraient pas autant d'efforts s'il n'y avait pas derrière la volonté de développer leur industrie militaire. C'est un grand jeu. Les gens s'échangent. Et les terres rares sont une des cartes de ce jeu.
Eh bien, je vous remercie, Paul Carreau, d'être venu nous parler de ces fameuses terres rares. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes correspondant à l'Académie des sciences, membre de l'Académie des technologies, ancien directeur de recherche au CNRS, et puis spécialiste, on l'aura bien compris, des terres rares. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous.
Merci.